Bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Je commencerai vraiment par vous remercier d'être si nombreux pour cette première conférence consacrée à l'astronomie. C'est le début d'un grand nombre de rencontres que nous programmerons aujourd'hui jusqu'à fin novembre 2001, consacrées donc à la fois à l'astronomie et à la cosmologie, mais également plus tard à des sujets plus directement liés aux questions de l'espace. Je suis très heureuse que vous soyez si nombreux ce soir parce que nous sommes une bibliothèque publique et à ce titre, nous avons une mission qui consiste à être aussi un lieu de débat et un lieu où se manifeste quelque chose que l'on pourrait appeler l'exercice public de la raison. Et à ce titre, il est tout à fait intéressant que nous puissions vous motiver à être là ce soir. Et heureux également parce que c'est un sujet qui, une fois n'est pas coutume, traite de questions directement scientifiques et techniques. Et c'est vrai que ça n'est pas toujours l'apanage des animations culturelles qui sont proposées par des établissements de lecture publique. Or, il nous est apparu, en préparant ce cycle, qu'il n'était plus possible, actuellement, de comprendre l'homme, de comprendre l'humain, de comprendre, jusque et y compris, les questions sociales, les questions littéraires, même les questions artistiques, sans avoir une connaissance de la manière dont le système technique qui nous entoure, le système scientifique qui nous entoure, préside, régit, co-crée des représentations dans lesquelles nous évoluons quotidiennement. Je suis donc vraiment ravie de votre présence ce soir. Représentation, c'est un petit peu la raison pour laquelle nous avons axé ce premier cycle de manifestation autour de la question de la forme du cosmos, qui nous paraît évidemment intéressante, précisément parce qu'elle met en jeu à la fois les connaissances, mais aussi les systèmes qui sont des systèmes de pensée d'une époque, etc. Donc c'est pour ça que nous avons intitulé ce cycle « Les formes du cosmos ». Et pour cela, nous avons commencé évidemment par les formes de l'entendement, pour reprendre des termes qu'anciens, que sont l'espace et le temps. C'est donc la raison pour laquelle Marc Lachaiseret vous parlera ce soir des formes de l'espace-temps. Donc Marc Lachaiseret, je ne sais pas s'il est nécessaire que je vous le présente, mais je vais le faire quand même. Je crois que tout le monde le connaît. Donc Marc Lachaiseret, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes astrophysicien. Vous avez été commissaire d'une exposition qui était tout à fait magnifique, qui était « Figure du ciel », organisée par la BNF en 98. Vous avez à votre actif de nombreux sujets de recherche et de nombreuses publications. J'en citerai quelques-uns. Connaissance du cosmos en 87, la recherche en astrophysique en 90, la recherche sur les origines de l'univers en 91, la physique et l'infini en 94, le rayonnement diffus cosmologique en 95, la quête de l'unité, deux points, l'aventure de la physique en 96. Et vous êtes également l'auteur d'un film, enfin le co-auteur d'un film que nous aurons le plaisir de vous diffuser le samedi 31 mars, qui s'appelle Infiniment courbe et qui est donc consacré à la question de la relativité générale, de l'espace et du temps dans ces systèmes-là. Vous m'avez signalé en arrivant que vous étiez également en train de lancer une édition de CD audio, donc dont le nom sera de Vive Voix, qui permettra d'écouter aussi bien des essais scientifiques que des essais historiques ou même littéraires, si j'ai bien compris. Voilà, peut-être vous souhaiterez nous en dire plus à ce sujet. Voilà, je vais sans plus tarder vous laisser la parole. Je vais quand même peut-être vous signaler, puisque j'ai parlé du rôle de la bibliothèque publique dans cette construction de débat, par vous signaler que vous pouvez consulter à la BPI dans le secteur qui est consacré aux sciences et techniques, un certain nombre, en plus des collections imprimées que vous pouvez trouver sur place, un certain nombre de CD-ROM et de sélections de sites internet qui sont directement accessibles depuis les postes de la bibliothèque. Les CD-ROM, j'en ai noté quelques-uns. Il y en a un qui s'appelle Cosmos, un qui s'appelle Le défi de l'univers, un autre qui s'appelle L'univers, et surtout une sélection de sites internet, un certain nombre de revues comme Ciel et Espace, comme Sky and Telescope, comme Astrophysical Journal, comme L'Astronomie, et puis un certain nombre de banques d'images et de sites pédagogiques. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole.
Donc, je vais parler des formes de l'univers et de l'espace-temps. Et ça sera évidemment une conférence à caractère scientifique, mais aussi à caractère historique, puisqu'il me semble que le mieux pour parler de ces formes, c'est d'introduire le cheminement de cette idée dans notre civilisation, c'est-à-dire savoir ce que c'est que l'univers, savoir ce que, aux différents stades de notre civilisation, c'est-à-dire en remontant à la civilisation grecque, nos ancêtres ont estimé ce que c'était que l'univers et de quelle manière ils pouvaient ou non lui associer une forme. Et j'essaierai de dégager la manière dont cette forme a évolué jusqu'à la physique contemporaine. Et la physique contemporaine, je vous en parlerai aussi. Ce sont, comme vous savez, essentiellement la relativité, les théories de la relativité et la cosmologie qui va avec, c'est-à-dire la cosmologie relativiste. Donc, je vous parlerai de la manière dont, dans le cadre de ces théories, on peut considérer l'espace, l'espace-temps, finalement c'est ça qui constitue l'univers, et lui assigner une forme. Et je vous montrerai qu'un des buts de la cosmologie contemporaine, c'est précisément de chercher quelle est la forme de notre univers, quelle est la forme de l'espace-temps. Et puis après, peut-être, si on a le temps, on fera un petit peu de prospective. Et le mieux, je crois, pour vous parler de cet aspect historique, c'est de montrer quelques illustrations qui sont tirées de l'exposition dont on vient de vous parler, que j'avais faite à la Bibliothèque nationale, et je vous en montrerai donc une petite partie, justement la partie qui, d'une certaine manière, illustre le regard que l'on peut porter sur l'univers dans sa globalité, au fil de l'évolution de notre civilisation. Et je signale aussi que ces illustrations, et d'ailleurs tout ce qui était dans la bibliothèque, se retrouvent dans un ouvrage qui s'appelle « Figures du ciel », qui est en quelque sorte le catalogue de l'exposition, et où donc aussi est retracé le cheminement de ces idées. Alors la première diapositive que je vais vous montrer, c'est peut-être inattendu, vous la reconnaissez sans doute, c'est la Mélancolie de Dürer, donc à la charnière du 15e et du 16e siècle. Je vous la montre non pas comme une illustration, mais je dirais d'une certaine manière pour vous mettre dans l'ambiance. Je vais essayer de faire le point quand même. Pour vous mettre dans l'ambiance à la fois de cette idée de mélancolie, mais qu'est-ce que c'est que la mélancolie? On peut dire que selon cette gravure, hein, c'est le titre que Dürer a donné à la gravure, eh bien, il me semble que c'est une réflexion sur le monde et peut-être une réflexion triste, je ne sais pas, mais ce n'est pas tellement la question ici. La question ici, c'est que cette réflexion sur le monde s'accompagne, est entourée de toute une série de symboles, que d'ailleurs, à propos desquels il y a beaucoup de discussions, mais qui font appel, bien entendu, à l'astronomie, on voit une comète, à la géométrie, à l'arithmétique, à la science, à l'écoulement du temps, à l'arithmétique par le carré magique, il y a aussi des symboles alchimiques, il y a un polygone et une sphère qui représentent la géométrie. Bon, je ne veux pas vous la détailler, il y a des livres entiers qui ont été consacrés à cette gravure, mais ce que je voudrais souligner, c'est le fait que cette réflexion sur le monde, qui est donc très présente à cette époque charnière, je vous rappelle qu'entre le 15e et le 16e siècle, c'est précisément l'époque où la science moderne va se mettre en place et où les conceptions du monde vont être totalement bouleversées. C'est donc une période très importante dans l'histoire des idées et dans l'histoire de la conception de notre univers. Il y en aura une deuxième dont je vous parlerai au XXe siècle avec l'arrivée de la relativité et de la physique quantique. Mais cette époque donc s'intéresse beaucoup à la conception de l'univers, et on voit que dans la manière dont on considère de l'univers, il y a toujours cette idée d'harmonie qui est présente derrière. Comment se présente l'harmonie ? Eh bien, ici, elle est associée, comme je vous l'ai dit, à l'arithmétique et à la géométrie, mais aussi elle est parfois associée à la musique et aux arts. Et dans l'histoire des représentations du monde et dans l'histoire de l'astronomie et des représentations astronomiques, eh bien, on voit très souvent des associations précisément avec la musique et différentes formes de l'harmonie. Bon, ça n'est pas mon sujet ce soir, donc je n'insisterai pas, mais je voulais quand même vous mettre dans cette ambiance. Alors donc, l'histoire des conceptions de l'univers, j'irai chercher jusqu'au grec et pas plus loin, même si on sait qu'il y a beaucoup d'influences babyloniennes, égyptiennes et sans doute d'autres. Et donc, je dirais qu'il y a trois époques. Il y a l'époque qui a commencé avec les Grecs et la mise en place de tout un ensemble d'idées sur notre monde, de conceptions, et essentiellement, je soulignerai celles d'Aristote et de Platon, qui sont restées en vigueur pendant deux millénaires, c'est-à-dire précisément à peu près jusqu'à la Renaissance, jusqu'à cette époque charnière que je viens de mentionner. Alors cette époque charnière, c'est celle de Copernic, Galilée, Newton, ça dure assez longtemps, ça dure un siècle, et il y a un bouleversement, en fait il y a une suite de bouleversements qui, par leur accumulation, font un grand bouleversement des idées, et plus particulièrement des idées sur l'univers, et qui correspondent, je dirais, à la naissance de l'idée même d'univers et à la naissance de la physique moderne. Cette période s'achève avec la publication des Principiae Philosophicae de Newton à la fin du XVIIe siècle, et elle va durer jusqu'au début du XXe siècle, où il y aura de nouveau un bouleversement qui est dû à la mise en place des deux théories de la relativité, restreinte et générale, ainsi que de la physique quantique un peu plus tard, et de la construction, en ce qui nous concerne davantage, de la cosmologie relativiste et des modèles de Big Bang, dont bien entendu je vous parlerai. Alors, si l'on remonte loin dans l'histoire de l'univers, eh bien, je passerai sur la plupart des détails, mais au IVe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il y a déjà une première. Bon, j'essaye de mettre au point, c'est pas très facile. Alors, ceci est une illustration de la cosmologie d'Aristote, qui n'est pas la première cosmologie. Il y a eu avant lui d'autres tentatives d'explication du monde, basées plus ou moins sur l'harmonie avec les pythagoriciens, qui déjà associent la réflexion et les représentations du monde à l'arithmétique et à la géométrie. Il y a eu d'autres réflexions sur le monde, je dirais plus concrètes, où par exemple Thalès de Milet qui dit que ce qui compte dans le monde, c'est l'eau, pour d'autres ce sera l'air, ou ce sera une sorte de matière qui n'est pas de la matière, pour Anaximandre. Bon, ici, je passe sur tout cela, et j'en arrive à la conception d'Aristote, qui d'ailleurs ressemble à celle de Platon. Donc, pour simplifier beaucoup, je dirais la conception d'Aristote et de Platon, qui se met en place au IVe siècle, où le monde est un monde fini, est un monde centré sur la Terre. Donc, vous voyez ici la Terre, est un monde qui, pour ce qui concerne la Terre et son environnement, est composé de quatre éléments, qui sont la Terre elle-même, enfin l'élément Terre, l'élément eau, l'élément air et l'élément feu. Et tout ceci jusqu'à à peu près la distance de la Lune, jusqu'à l'orbite de la Lune, puisque la Lune, en fait, selon ces modèles, décrit un cercle où est entraînée par une sphère centrée sur la Terre. Au-delà de l'orbite de la Lune, eh bien, il y a les orbites des autres planètes, y compris le Soleil, que l'on considère à cette époque sur le même plan que les autres planètes, de plus en plus loin, et elles-mêmes entraînées aussi par des mouvements de cercles ou de sphères, puisque, selon Platon, il règne dans le ciel, c'est-à-dire dans la partie externe, dans la partie au-delà de la Lune, dans le monde supralunaire, il règne une harmonie à peu près parfaite. C'est une idée qui est héritée des pythagoriciens. Et à la perfection est associée la figure géométrique du cercle ou de la sphère. Donc tout ce qui se passe dans le ciel ne peut être que des mouvements circulaires ou des mouvements sphériques. C'est pour cela qu'il y a des sphères planétaires, il y a des sphères célestes, et il y a même une harmonie des sphères, toujours cette idée d'harmonie, de perfection, de symétrie dans le ciel. Et puis ces sphères s'étagent les unes après les autres, et il y a une dernière sphère, qui est la sphère des étoiles, ici représentée comme ceci. Et les étoiles ne sont pas considérées, comme aujourd'hui, à des éloignements différents, mais on pense qu'elles sont toutes dessinées ou gravées sur cette dernière sphère, la sphère des étoiles fixes, puisqu'on suppose que sur cette sphère, elles sont toutes fixes, et le mouvement de rotation de cette dernière sphère entraîne les étoiles, et c'est pour ça que la nuit, on voit les étoiles tourner autour de l'axe des pôles. Donc il y a une dernière sphère qui représente la limite du monde, en tout cas la limite du monde matériel. Donc le monde, non seulement il est centré sur la Terre, il est fini, mais il est borné, il a une limite. Alors bien entendu, dès le départ, ça pose un paradoxe que les adversaires d'Aristote n'auront pas manqué de souligner, et même d'ailleurs ses partisans, puisque c'est quelque chose de très gênant, c'est que s'il y a une limite du monde et que on suppose que l'on arrive à proximité de la limite du monde et on passe le bras à travers la limite du monde, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Où sera ma main? Est-ce que ma main sera encore dans le monde? Eh bien, elle sera encore quelque part. Si elle est quelque part, c'est qu'elle est dans le monde. Et donc, je n'étais pas vraiment à la limite du monde. Ou sinon, elle disparaît. Mais comment peut-elle disparaître puisqu'elle est encore attachée à mon bras? Enfin, comment ça se passe? Il y a là une sorte de paradoxe qui s'exprimait même, d'ailleurs, d'une manière parfaitement technique dans le langage même de la physique et de la cosmologie d'Aristote en termes de lieu. Et d'ailleurs, ça me permet de souligner que chez Aristote et chez Platon, il n'y avait pas encore le concept d'espace. Et comme par hasard, le concept d'espace, c'est-à-dire associer quelque chose en physique qu'on appellera l'espace et l'espace physique, l'associer à un espace mathématique, cela n'arrivera qu'au XVIIe siècle, et comme par hasard, cela va coïncider avec la naissance de la physique moderne. Et donc, la thèse que moi je soutiens souvent, c'est qu'il n'y a pas de physique, il n'y a pas en tout cas de physique moderne, sans géométrie et sans une conception de l'espace, qui peut être plus ou moins simple, et on verra de quelle manière il peut être plus ou moins simple. Donc ça, c'est une représentation de la cosmologie d'Aristote, cosmologie du IVe siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr, la représentation ne date pas du IVe siècle avant Jésus-Christ, elle date du XVe siècle, c'est dans un ouvrage d'Appianus. Une autre représentation de la physique d'Aristote, un peu du même genre, mais plus colorée évidemment, du Moyen-Âge, par Gossoin de Metz. Je n'ai pas le temps de tout commenter, bien entendu, simplement apprécier, et chaque fois, il s'agit de bien voir que la Terre est au centre du monde, avec les éléments qui sont en elle ou qui l'entourent. J'y étais presque pourtant. Doit viser mal. Ah. Voilà. Guillaume de Conches au Moyen-Âge, qui illustre encore le monde d'Aristote. Et en fait, la physique d'Aristote sera oubliée pendant l'Antiquité. Elle sera réintroduite au XIIe siècle, comme d'ailleurs celle des atomistes. Enfin, les œuvres de la plupart des Grecs seront réintroduites dans notre civilisation au XIIe et au XIIIe siècle par les Arabes. Et cela sera traduit par les Arabes et amené par eux. Et donc on redécouvre Aristote au XIIe siècle, et c'est le moment où, bien entendu, les conceptions du monde sont, je dirais, déterminé par les écritures saintes chrétiennes. Et il y a donc au début un conflit entre les idées aristotéliciennes et les idées chrétiennes, et puis finalement les deux conceptions sont amalgamées pour donner la vision standard du monde, qui est celle-ci, la Terre toujours au centre avec les éléments, les planètes jusqu'à la sphère des fixes, et d'une certaine manière la sphère des fixes représente la limite du monde matériel, mais au-delà de cette sphère des fixes, il y a un monde spirituel et même un monde religieux avec des degrés. Selon les auteurs, on va trouver 7 degrés, ou 8 degrés, ou 12 degrés, ou même 24 chez d'autres. Et de cette époque date l'expression du 7e siècle, du 7e ciel, bien entendu. Et ici, on voit donc cette illustration des niveaux supracélestes, où il y a des anges, et à d'autres niveaux, il y aura les élus, il y aura Dieu lui-même et les saints. Et le but du bon chrétien, c'est finalement de réaliser une sorte d'ascension céleste. Évidemment, cette ascension céleste est assimilée à une amélioration de la spiritualité. Voici une illustration parfaite de ceci qui est due à la mystique Hildegard de Bingen. Donc on voit en même temps une assimilation également du monde au corps humain. Et ça, c'est une idée qui date de tout à fait du Moyen-Âge. Une sorte d'identité entre le microcosme, le corps humain, et le macrocosme. C'est-à-dire le corps humain est un univers en miniature et l'univers lui-même est un organisme quasiment vivant, et il y a tout un jeu de correspondance, ce qui justifie une astrologie, ce qui justifie une médecine des humeurs en correspondance avec le ciel, et toutes ces pratiques que, évidemment, nous ne connaissons plus. Mais il y a une très riche iconographie et évidemment des textes très riches également sur ce sujet. Donc finalement, ce sont les représentations du monde de l'époque qui ont toujours un côté spirituel, un côté religieux, un côté avec des correspondances ésotériques, jusqu'à la Renaissance et même jusqu'après. Une autre représentation de Barthélemy Langlais, centrée sur la Terre, où on voit les quatre éléments de la Terre très distinctement. Et là, il a, je dirais, omis les sphères ou les cercles des planètes, et on voit donc la Terre avec tout autour la sphère des fixes représentée par le zodiaque. Encore Barthélemy Langlais qui donne une autre représentation. Cette fois, on voit les planètes qui sont assimilées à des personnages dans la tradition astrologique. Bon, ça bouge. Évidemment, toute une assimilation des planètes à des personnages, à des dieux et au caractère. Je passe là-dessus quand même, mais chaque fois, on voit la forme du monde. Et voici une illustration de Dante et de son voyage au paradis, puisque ce voyage est extrêmement intéressant dans la mesure où on voit que Dante et Béatrice, dans leur voyage, parcourent les différents degrés du ciel, et d'ailleurs de l'enfer, et c'est une occasion pour eux, de pouvoir examiner la forme du monde, précisément. Et certains auteurs ont rapporté quelque chose de curieux, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, c'est que lorsqu'on regarde les cercles du ciel que parcourt Dante, en fait plutôt les sphères, eh bien il commence à parcourir des sphères qui sont de plus en plus grandes, et ensuite ces sphères rapetissent, elles sont de plus en plus petites, bien que contenant les autres qui étaient plus grandes qu'elles. Alors c'est quelque chose qui paraît d'une certaine manière absurde, pourtant lorsqu'on lit la Divine Comédie, on s'aperçoit que c'est décrit comme ça. Et cette caractéristique, c'est précisément la caractéristique de certains espaces géométriques que l'on appelle hypersphériques, et qui étaient évidemment inconnus à l'époque de Dante et inconnus jusqu'au XIXe siècle, et que pourtant on applique quelquefois dans certains modèles cosmologiques qui sont tout à fait plausibles pour décrire l'univers. Donc certains auteurs ont remarqué cette analogie et se sont demandé, est-ce que Dante avait eu l'intuition de ces géométries qui sont certains aspects de ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes? Je ne crois pas, mais malgré tout, c'est intéressant de remarquer que Dante avait pris finalement certaines libertés avec la géométrie ordinaire qui montre un autre aspect de son audace intellectuelle finalement. Non, je reviens en arrière, pardon. Alors, une autre illustration du voyage de Dante. Béatrice et Dante qui arrivent près du firmament, au milieu des étoiles. Et ils aperçoivent les derniers niveaux célestes avec les anges et les élus. Alors, évidemment, à cette époque, il y a de nombreuses tentatives de décrire l'ordonnancement du ciel et des planètes, puisqu'on se demande si vraiment les planètes tournent autour de la Terre, ou bien si elles ne tourneraient pas autour du Soleil, puisque vous savez que Copernic émettra cette idée. Pardon. Difficile. Alors, ceci est le frontispice d'un ouvrage de Athanase Kircher, qui était un jésuite et en même temps un grand amateur d'astronomie. Et il décrit un voyage cosmique, un voyage dans le système solaire. Et en fait, c'est l'occasion, ce voyage cosmique est l'occasion de décrire précisément la forme du système solaire. Et à l'époque, c'est après Copernic déjà, Copernic a déjà proposé un modèle selon lequel la Terre est au centre du monde. Bien entendu, comme vous le savez, ce modèle a été accepté très difficilement. Il y a des modèles concurrents. Notamment, ici est illustré un modèle de Tycho Brahe, selon lequel c'est toujours la Terre qui est au centre du monde, et non pas le Soleil. Mais le Soleil que vous voyez ici tourne autour de la Terre, et les autres planètes tournent autour du Soleil. C'est une sorte de modèle mixte qui fait là à peu près les mêmes prédictions que le modèle de Copernic, mais qui a l'avantage de ne pas enlever la Terre de sa position centrale dans le monde, et qui donc est beaucoup mieux acceptée par l'Église, et notamment par Kircher. Et le voyage extatique qu'écrit Athanase Kircher est une occasion de faire la promotion littéraire du modèle de Tycho Brahe par opposition au modèle de Copernic. Alors cette illustration qui date en fait du 19e siècle, je dirais, elle met en évidence le paradoxe que je vous soulignais tout à l'heure. C'est-à-dire, si on se trouvait au bord du monde, le bord du monde qui est ici représenté par cette sphère des étoiles fixes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On sort du monde matériel, c'est quelque chose de paradoxal. Mais en même temps, chez Aristote, déjà, il y avait l'idée qu'il fallait quelque chose qui puisse mettre le monde en mouvement, un moteur du monde. Eh bien, ce moteur du monde, déjà chez Aristote, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment matériel et qui était situé hors du monde, au-delà de la sphère des fixes. Et voilà donc l'illustration de ce moteur du monde. C'est un montage qui a été fait, je crois, par Flammarion dans un de ses ouvrages au XIXe siècle. Et lorsque les conceptions d'Aristote ont été reprises par les conceptions mise en accord avec les conceptions des Écritures, eh bien, ce moteur du monde, ce sera quoi? Ce sera Dieu lui-même ou bien ses anges. Et on voit de nombreuses illustrations de l'époque où des anges font tourner la manivelle du monde ou font tourner les engrenages du monde. Alors, cette gravure due à l'astronome anglais Thomas Dix est intéressante puisque c'est la première gravure où l'on voit les étoiles, non pas représentées sur la sphère, mais représentées, réparties dans quelque chose. Donc, elles ne sont plus sur la sphère des fixes. Ça veut dire qu'on commence à cette époque, 16e, 17e, à se rendre compte que les étoiles ne sont pas toutes sur une sphère à la même distance de nous, mais qu'elles se répartissent dans l'univers. Alors évidemment, ça va commencer à poser beaucoup de questions. Dans quoi elles se répartissent? Et petit à petit viendra l'idée de l'espace, et elles se répartissent dans l'espace. Jusqu'où elles se répartissent? Et ça pose la question de savoir si le monde est fini ou infini, puisque si l'on supprime cette frontière, le monde donc peut aller plus loin, mais jusqu'où va-t-il? Est-ce qu'il est fini ou infini? Enfin, le fameux paradoxe du monde fini que je vous ai mentionné disparaît. Mais concevoir un monde infini, ça n'est pas encore quelque chose qu'au XVIe, au XVIIe, on est prêt à admettre. Et vous savez peut-être que Giordano Bruno, partisan d'un monde infini, a été brûlé en l'an 1600 à Rome, sur le Campo dei Fiori, pour avoir soutenu qu'il y avait un monde infini et que dans ce monde infini, il y avait une infinité, une pluralité infinie de ce qu'il appelait les mondes, mais qui étaient en fait d'autres systèmes planétaires avec des planètes où peut-être il y avait des hommes. Et voici une illustration, si vous voulez, de ces systèmes planétaires dans ce système de Dix, qui était évidemment un copernicien convaincu. Alors voilà le système de Copernic lui-même, tel qu'il le présente dans son De Revolutionibus, qui est paru en 1543, avec le Soleil au centre, la Terre avec la Lune autour qui tourne autour du Soleil, et les autres planètes. Mais, donc c'est une conception nouvelle, où le centre est déplacé, le centre du monde n'est plus la Terre mais le Soleil, mais il y a toujours un centre. Et d'autre part, pour Copernic, il y a toujours des mouvements circulaires. Et il y a toujours, elle n'est pas destinée ici, une frontière du monde. Vous voyez qu'il y a encore des résidus, des restes de la physique aristotélicienne, mais ces restes seront remis en cause aussi par la suite. Par exemple, ce sera Kepler qui va émettre l'idée et la prouver que les orbites des planètes ne sont pas des cercles ou des combinaisons de cercles, mais que ce sont des ellipses. Ce seront tout ensemble, ou plutôt à la suite, Kepler, Tycho Brahe, Galilée, qui vont montrer qu'il n'y a pas de distinction vraiment nette entre le monde de la Terre, le monde sublunaire, et le monde supralunaire qui était censé être parfait. On se rend compte aussi à la même époque qu'il n'y a pas de frontières du monde, comme je vous l'ai dit. Donc tous les dogmes aristotéliciens, les uns après les autres, vont être abandonnés, avec évidemment des preuves solides. Voici le frontispice de l'ouvrage de Giordano Bruno, de l'infini de l'univers et des mondes, où précisément il est un des premiers, il est un des premiers à cette époque, mais en fait il reprend des idées anciennes des atomistes, parce que je vous ai beaucoup simplifié l'histoire grecque en ne vous parlant que d'Aristote et Platon, mais il y a eu aussi, par exemple, entre autres, les atomistes, qui déjà, à l'époque grecque, étaient les promoteurs de l'idée d'un monde infini. Eh bien Bruno, qui a lu les atomistes, reprend ces idées et se fait le partisan d'un monde infini. Alors, je vous ai parlé du paradoxe du monde fini, c'est-à-dire de la frontière du monde, paradoxe en tout cas d'un monde fini avec frontières, mais en fait, il y a aussi un paradoxe du monde infini. Et ce paradoxe a été mentionné pour la première fois par Kepler, donc charnière du XVIe et du XVIIe siècle, et il est le suivant, c'est que si le monde est infini dans son extension, et s'il est peuplé uniformément d'étoiles, Kepler fait un raisonnement géométrique assez simple, selon lequel la luminosité du ciel devrait toujours être brillante, égale à celle du soleil à peu près, même pendant la nuit. Or, évidemment, la nuit est noire, comme on peut le constater facilement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce raisonnement. Donc, en conclut Kepler, l'univers est fini. Et ce paradoxe de la nuit noire a été repris de différentes manières tout au long des siècles, et ça a été un obstacle très fort pour l'acceptation de l'idée d'un monde infini. Pourtant, Newton, comme vous le savez, à peu près un siècle après Kepler, va énoncer dans ses Principia que le monde physique, c'est l'espace, et que cet espace est infini. Et aujourd'hui, on considère à peu près sans problème, sans paradoxe apparent, l'idée d'un monde infini, eh bien, il y a tout simplement une solution à ce problème, dont je vous reparlerai par la suite, mais cette solution, le premier qui en a eu l'intuition, c'est Edgar Poe, au XIXe siècle, dans la nouvelle qui s'appelle Eureka. Et Edgar Poe expose une conception du monde très originale, et dans cette conception du monde, eh bien, il donne en fait ce que nous pensons aujourd'hui être la solution de ce paradoxe du monde infini. Et en fait, aujourd'hui, c'est grâce à la relativité générale qu'on peut très bien concevoir un monde infini sans qu'il y ait de paradoxe. Et je vous en reparlerai au moment du modèle de Big Bang. Et, entre parenthèses, c'est également grâce à la relativité générale que l'on peut concevoir un monde fini sans paradoxe. Parce que, à l'époque des Grecs, et même jusqu'au XIXe siècle, si l'on voulait imaginer que le monde, l'espace, puisse être fini, on ne pouvait le faire qu'en supposant qu'il y a une frontière. Et l'idée nouvelle qui a été apportée au XIXe siècle, avec cette nouvelle géométrie qui s'appelle la géométrie non euclidienne, c'est que l'on peut envisager un espace qui soit fini, dans le sens où il a un volume fini, une circonférence finie, qu'on peut en faire le tour, mais qui n'a pas de frontière. Un petit peu comme la surface de la Terre, eh bien, vous êtes sur la surface de la Terre, vous allez toujours tout droit, vous n'allez jamais rien rencontrer qui vous arrête, s'il y a la mer, ben vous prenez un bateau, vous allez toujours tout droit, eh bien, quand vous aurez fait 40 000 km en allant toujours tout droit, vous serez revenu à votre point de départ sans jamais avoir rencontré de frontières qui vous empêchent, à part les frontières entre États, mais on va supposer que tout ceci est aboli. Alors, dans l'espace, eh bien, c'est pareil. Il est tout à fait possible que si vous partez en fusée en allant toujours tout droit, après avoir parcouru non pas 40 000 km, mais peut-être 40 milliards d'années ou davantage, vous reviendriez à votre point de départ, et ce serait une illustration parfaite de ce que l'espace serait, dans ce cas-là, fini. Aujourd'hui, donc, je répète, la relativité nous permet d'envisager aussi bien un monde fini qu'un monde infini. Et quelle est la réponse? Eh bien, nous ne savons pas. Les deux sont possibles. Les deux, pour le moment, en l'état des choses, sont en accord avec les observations, les résultats dont nous disposons. Ceci est une illustration de Kepler pour montrer l'étoile nouvelle, que nous appellerions aujourd'hui supernova, qu'il a observé et qui a explosé en 1606 dans le pied de la constellation du Serpentaire ici. Je vous la montre parce que l'explosion de cette supernova et son observation par Kepler a été un élément absolument décisif dans la progression des idées de Kepler. Je n'ai pas le temps de vous parler de tous les détails de ce résultat, mais en gros, le fait qu'une supernova explose dans le ciel, c'est-à-dire qu'à un endroit, c'est-à-dire qu'on la voit alors qu'on ne la voyait pas avant, c'est-à-dire que du point de vue de Kepler, à un endroit où il n'y avait pas d'étoile hier, il y a aujourd'hui et dans les jours qui suivent une nouvelle étoile, ça veut dire que ce qui se passe dans le ciel n'est pas immuable. Le ciel, lui aussi, est changeant et il y a des étoiles qui naissent et qui meurent. D'ailleurs, c'est assez curieux, puisque c'était, selon la terminologie de l'époque, une étoile nouvelle, c'est-à-dire Kepler envisageait ça comme la naissance d'une nouvelle étoile, alors que nous savons aujourd'hui que c'est une étoile qui est en train de mourir, c'est une étoile qui explose à la fin de sa vie. Peu importe l'effet observationnel elle-même, il y a quelque chose qui change dans le ciel, donc ça a été la fin de l'idée d'un ciel immuable. Et si le ciel n'est plus immuable, eh bien ça veut dire que, d'une certaine manière, sa nature est semblable à celle de la Terre, et c'est comme ça que Kepler a abandonné la distinction entre monde sublunaire et supralunaire. Je vous montre ici la lunette de Galilée, puisque vous savez peut-être que grâce à Galilée a été le premier à braquer une lunette dont il n'est pas l'inventeur, mais dont il est un des premiers utilisateurs astronomiques. Il a été le premier à la braquer sur les cieux et à voir les montagnes sur la Lune, à voir les phases de Vénus, les satellites de Jupiter, beaucoup d'étoiles dans la Voie lactée. Et tous ces résultats d'observation ont aidé Galilée à comprendre que le monde est en fait unifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je répète, de distinction entre monde sublunaire et monde supralunaire, et que ce monde est en fait un univers avec une composition chimique qui est partout la même, avec des lois qui sont partout la même, y compris pour le mouvement. Et un peu après Galilée, eh bien Newton va venir, et Newton va donner la première loi universelle. Et le mot universel ici est très important parce que ça veut dire que les lois partout dans l'univers sont les mêmes que sur la Terre. Et l'exemple qu'en donne Newton, c'est la loi de la gravitation. Les lois de la gravitation sont les mêmes et c'est la même loi qui fait que la Lune tourne autour de la Terre et qui fait que la pomme tombe du pommier. Et nous pourrions rajouter aujourd'hui que les étoiles tournent dans les galaxies et que les étoiles et que les galaxies s'attirent elles-mêmes. Et puis nous pourrions même rajouter que l'univers dans son ensemble évolue. Donc la gravitation est une loi universelle. Et aujourd'hui, nous pensons aussi que l'électromagnétisme est une loi universelle. Et quand nous observons une étoile qui est très lointaine ou une galaxie encore plus lointaine à des milliards d'années-lumière, bien entendu, nous pensons que les processus qui ont donné naissance dans cette galaxie très lointaine à la lumière que nous observons, eh bien, ces processus sont tout à fait conformes aux lois de l'électromagnétisme, les mêmes que sur Terre. Ces processus, il y a des réactions nucléaires conformes aux lois de la physique nucléaire qui sont également valables sur Terre, physique atomique, etc. Nous pensons aujourd'hui qu'il n'y a qu'une physique. C'est une autre manière de dire qu'il y a un univers où tout est unifié. Et cette idée, donc, ceux qui l'ont établie, ce sont tous ceux que j'ai cités, Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Giordano Bruno, Galilée, Newton. Et elle va vraiment être écrite noir sur blanc par Newton. Alors ça, c'est encore Galilée, c'est le frontispice de ses dialogues, l'ouvrage qui lui a valu tous les ennuis que vous connaissez. Enfin, ça n'a pas été si loin, heureusement, pour lui que pour Giordano Bruno. Ceci est le frontispice d'un autre ouvrage, d'un jésuite qui s'appelle Riccioli. Et c'est une pesée des systèmes du monde, comme vous le voyez. Et Riccioli était chargé, plus ou moins en mission par l'Église, pour finalement combattre le système de Copernic, qui est aussi celui de Galilée. Et vous voyez que ici, la justice est en train de peser les systèmes du monde. Et bien entendu, celui qui pèse le plus lourd, celui qui est le plus valable, ça n'est pas celui de Copernic, avec le soleil au centre, mais c'est celui de Tycho Brahe. Donc voici finalement la forme du monde selon Copernic et selon Tycho Brahe. Et c'est Tycho Brahe qui l'emporte. Il y a eu un essai d'explication du monde par Descartes, qui est assez intéressant, bien qu'il se soit révélé, en fait, il n'a pas fonctionné. C'est l'idée d'expliquer le monde et tous les mouvements planétaires par des tourbillons. c'est très joli et c'est très ingénieux, mais finalement, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails non plus, mais ça n'a pas marché. Ce qui est intéressant, c'est ici une tentative, malgré tout, d'expliquer ce qu'on voit dans le ciel par une cause physique, je dirais quasiment matérielle. Alors il fallait pour cela supposer que l'univers était rempli d'une sorte de fluide tourbillonnant, c'est-à-dire le support de ces tourbillons. Mais aujourd'hui, on fait à peu près la même chose quand on parle de masse cachée. Vous savez, les astronomes invoquent de la masse cachée. C'est un petit peu la même chose que cette substance que l'on ne voit pas, mais dont on est obligé de supposer la présence pour expliquer les phénomènes. Donc Descartes, ça n'a pas marché, mais comme vous le savez, Newton, ça a marché beaucoup mieux. Donc Newton énonce cette loi de la gravitation universelle, et c'est formidable parce que lorsqu'on applique cette loi, eh bien, on explique pourquoi les planètes ont des mouvements, ont des orbites elliptiques, ce que Kepler avait découvert par l'observation, à la suite des observations de Tycho Brahe, par ses calculs, par des calculs très laborieux. Il a mis 3 ans à trouver que l'orbite de la planète Mars était une ellipse. Et bien maintenant, Newton montre que sa loi de gravitation universelle et sa loi de la mécanique implique que les planètes autour du Soleil doivent avoir des orbites elliptiques. Et, comme vous le savez, très rapidement, les calculs de Newton vont permettre de prédire le retour de la comète de Halley au XVIIIe siècle, vont permettre de découvrir la planète Neptune, et ce sera un succès extraordinaire pour cette physique. Et la théorie de Newton va devenir le modèle de toute théorie physique, va même devenir le modèle de toute théorie, puisqu'on cherche à l'appliquer aussi à l'économie, à la psychologie, etc. Et il y a tout un mouvement qui s'appelle le newtonianisme, qui cherche, d'une manière évidemment très exagérée, à transposer les idées de Newton dans tous les domaines. Alors Newton met donc en place une nouvelle physique, et ce qui nous intéressera le plus ici, c'est que cette nouvelle physique, cette mise en place de la physique, coïncide premièrement avec l'idée d'univers, et deuxièmement avec l'idée d'une géométrisation de l'univers, une géométrisation, je dirais, quasiment parfaite, puisque l'univers, c'est un cadre fait d'espace et de temps, et que l'espace physique, ainsi introduit, coïncide avec l'espace mathématique. À l'époque de Newton, on n'avait pas le choix. Le seul espace mathématique que l'on connaissait, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace euclidien, celui dont on apprend les propriétés à l'école. On l'appelle aujourd'hui espace euclidien parce que, bien entendu, il existe d'autres sortes d'espaces qu'on va appeler non euclidiens, mais ils n'ont été découverts qu'au XIXe siècle. Donc pour Newton, on n'a pas le choix. L'espace, c'est l'espace euclidien. Et la forme du monde, c'est finalement la forme de l'espace euclidien, c'est-à-dire elle est tellement simple et nous y sommes tellement habitués qu'on ne peut pas vraiment la dessiner. Mais en voici une sorte d'illustration qui finalement montre que les objets, ici les planètes, se répartissent dans un espace qui est tissé, comme vous voyez, de lignes rectilignes. Pourquoi ? Parce qu'une manière de représenter la structure de l'espace, c'est de représenter le réseau des rayons lumineux qui s'y propagent. Et dans l'espace ordinaire, dans l'espace euclidien, les rayons lumineux se propagent en ligne droite. Cette illustration est tirée du film Infiniment courbe que vous pourrez voir, je ne sais plus à quelle date, dans le cadre, à la fin de ce cycle de conférences. Donc ça, c'était la forme de l'espace newtonien. Mais aussitôt que la forme du cadre est établie, c'est celle de l'espace euclidien, se pose la question de savoir comment la matière est répartie dans cet espace. Eh bien, la question essentielle, c'est de savoir est-ce que la matière est répartie... Il y a 2 questions. Est-ce que la matière est répartie de manière finie ou bien infinie ? On y est presque. Voilà. L'espace lui-même est infini. C'est-à-dire, si vous prenez une droite, elle se prolonge indéfiniment. En revanche, est-ce que la matière est répartie dans tout cet espace ? C'est-à-dire, nous sommes dans une zone de l'univers où il y a de la matière. Est-ce que cette matière va jusqu'à l'infini comme l'espace, ou bien la matière, elle, s'arrête ? Et puis après, il n'y a plus de matière, mais l'espace continue. La question est posée. Et la 2e question, c'est de savoir, est-ce que la matière est répartie de manière relativement uniforme, ou bien est-ce qu'elle est organisée d'une manière irrégulière ou hiérarchique, ou selon un modèle ou un autre ? Et après Newton, et après qu'on ait montré que finalement, dans le ciel, les lois étaient les mêmes que sur terre, eh bien, l'idée qu'il y a d'autres mondes qui ressemblent beaucoup au nôtre, va devenir de plus en plus populaire. En voici une illustration chez Fontenelle, justement la pluralité des mondes. Eh bien, pour Fontenelle, il y a un système solaire avec des planètes. Vous voyez ici Jupiter et ses 4 satellites. Vous voyez des comètes dans le système solaire. Et puis, il y a des tas de systèmes solaires. C'est l'idée qu'avaient déjà promue les atomistes grecs avant même Platon et Aristote. C'est l'idée qui avait été reprise par Giordano Bruno. Mais Giordano Bruno était trop en avance. Il a fallu, pour que cette idée puisse prendre, pour qu'elle puisse être admise, il a fallu que l'on montre finalement l'identité des mondes sublunaires et supralunaires. Ce qui a été fait, comme je vous l'ai dit, par le XVIIe siècle. Donc Fontenelle est un grand partisan de la pluralité des mondes et tous les astronomes dans le cadre de la physique newtonienne, à peu près, seront des partisans de la pluralité des mondes et ils vont dire il y a des habitants sur les autres planètes, il y a des habitants sur Mars, il y a des habitants sur Vénus. On trouve ça chez presque tous les astronomes. Notez au passage le dessin de l'ombre, du cône d'ombre des différentes planètes, ce qui montre bien que les lois de la propagation de la lumière étaient parfaitement comprises à cette époque. Voici d'autres illustrations de l'anglais Thomas Wright. Vous voyez, une illustration de monde hiérarchique. Alors évidemment, ça n'est pas une illustration qui se veut totalement réaliste, mais ça donne une idée de ce que pourrait être une sorte d'univers hiérarchique où il y aurait des amas de matière, des amas d'étoiles de tailles différentes et réparties de cette manière. Alors, au XIXe siècle, au XVIIIe et au XIXe, précisément, les astronomes vont se poser essentiellement la question de savoir si cette matière est répartie ou non jusqu'à l'infini dans l'espace. Et pour cela, les astronomes vont essayer de faire des comptages d'étoiles, de mesurer leur distance, de mesurer leur distribution. Au XIXe siècle, on va s'apercevoir que les étoiles ne s'étendent pas jusqu'à l'infini, apparemment. C'est-à-dire, on regarde dans une direction, on compte les étoiles, il y en a toujours, et puis ça s'arrête dans une autre direction, pareil. Et finalement, au XIXe siècle, les astronomes vont montrer, ça c'est une autre illustration du système de Wright, au XIXe, les astronomes vont montrer que les étoiles que nous voyons sont en fait réparties dans une petite région de l'univers, petite à l'échelle cosmologique, que l'on appelle notre galaxie, et qui n'est rien d'autre que la Voie lactée. Donc, nous, notre système solaire, notre Soleil, est une étoile parmi 100 milliards d'autres, et le rassemblement de ces 100 milliards d'autres forme la galaxie. Et puis, au-delà de la galaxie, il n'y a rien. Et donc, au 19e, on va se dire, ben voilà, l'univers, c'est notre galaxie. La forme de l'univers, c'est la forme de notre galaxie. Et d'ailleurs, les astronomes s'emploient, par des mesures de distance, par des comptages, à essayer de mesurer la forme de cette galaxie. Elle n'est pas sphérique, mais elle a plutôt la forme d'un disque aplati. Le Soleil n'est pas au centre, mais il est plutôt à la périphérie. Il y a un mouvement, tout cela tourne. Bon, petit à petit, on se trompe peut-être, on fait des erreurs sur la dimension, mais petit à petit, les astronomes se rendent compte de la forme de notre galaxie qu'ils assimilent à l'univers. Mais en même temps, il y a certains astronomes et certains penseurs, notamment Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe, qui disent « mais non, notre galaxie, ça n'est pas tout ». C'est vrai, il y a des étoiles, un rassemblement d'étoiles, et puis il y a du vide, mais plus loin, il y a d'autres univers-îles comme notre galaxie. Un peu comme sur la mer, nous sommes sur une île, tout autour il y a de la mer, c'est-à-dire il n'y a pas de terre, et puis beaucoup plus loin, il y a une autre île, et puis encore beaucoup plus loin. Et Kant, donc, appelait ça, très joliment, des univers-îles. Mais on ne les voyait pas. Sauf que l'on voyait au XIXe siècle, la mention des télescopes, c'est devenu absolument flagrant, on voyait, outre les étoiles, dans le ciel, ce qu'on appelait des nébuleuses, c'est-à-dire des zones lumineuses diffuses. Qu'est-ce que c'était? Où c'était? Et petit à petit, certains astronomes se sont dit que peut-être, justement, ces nébuleuses, c'était des objets très lointains, qui n'étaient pas à l'intérieur de notre galaxie, mais qui étaient en dehors et très loin. Donc, qui ne faisait pas, d'une certaine manière, partie du monde. Ça devenait quelque chose d'assez difficile à admettre. Et il y a eu un très grand débat, un très long débat, qui n'a été résolu que dans les années 1930, en 1924 plutôt, pour être précis, où l'astronome Edwin Hubble, à la suite de beaucoup de controverses et de longs débats, a montré que l'une de ces nébuleuses, à savoir la nébuleuse d'Andromède, était en fait située très en dehors de notre propre galaxie, et il a réussi à montrer qu'elle était faite d'étoiles, et que donc c'était une autre galaxie. Et en 1924, donc, le monde a totalement changé de dimension, et je dirais même de forme, puisque tout d'un coup, on est passé d'un monde qui était limité à notre galaxie, à une autre vision du monde, où notre galaxie n'était plus qu'un point minuscule dans un monde beaucoup plus grand, dans un monde finalement rempli d'un gaz dont les atomes ou les molécules sont les galaxies elles-mêmes. Donc, ce qui avait, notre galaxie, qui avait le statut de quasi-totalité du monde, a changé de statut pour devenir un simple atome dans le monde entier. Mais la question qu'on se posait à propos des étoiles va finalement se reposer à propos des galaxies. Est-ce que les galaxies sont réparties de manière relativement uniforme dans l'univers, ou bien est-ce qu'elles montrent des structures ? Vous voyez par exemple ici un exemple de ce qu'on appelle un amas de galaxies. Ces galaxies sont très éloignées de nous, elles sont à des milliards d'années-lumière, alors que les dimensions de notre galaxie se mesurent en milliers d'années-lumière. Et vous voyez, il y a encore à cette distance, il y a encore des structures. Mais on pense quand même que si on regarde à des distances encore plus lointaines, des distances encore plus grandes, eh bien tout ça devient relativement homogène. C'est un petit peu comme dans cette pièce, il y a un gaz, bon, il y a de l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas. Et si on le voyait, on aurait l'impression qu'il serait homogène. Mais si on le voyait avec une très grande finesse, c'est comme l'intérieur d'un nuage, ça ne serait pas tout à fait homogène. Il y aurait des zones un tout petit peu plus denses, d'autres un tout petit peu moins denses. Il y aurait des atomes à un endroit et à côté du vide. Eh bien, dans l'univers, c'est pareil. Il y a des zones où il y a beaucoup de galaxies, comme un amas de galaxies tel que celui-ci, et il y a des zones où c'est le vide. Mais en fait, ce qui nous intéresse, alors voici d'ailleurs des simulations numériques par ordinateur à très très grande échelle qui montrent que la distribution des galaxies, eh bien finalement, elle a une certaine forme. Ici, des formes qui montrent des filaments. Voici une autre représentation d'un morceau d'univers. On suppose que l'on a coupé un cube dans l'univers, comme un morceau de fromage. Eh bien, dans ce cube, qui a une dimension absolument immense, il y a des galaxies qui sont réparties. Et tout ceci, évidemment, c'est quelque chose que nous pouvons voir avec nos télescopes, mais ça n'est pas vraiment la forme de l'univers. Je dirais que c'est plutôt la forme de la répartition de la matière qu'il y a dans l'univers. L'univers, c'est le cadre. Ce que nous observons là, c'est ce que contient le cadre. Ce sont ces galaxies, et nous voyons la répartition de ces galaxies dans l'univers. Mais on peut se demander, est-ce que l'univers lui-même a une forme ? Pour Newton, ça n'avait pas de sens, puisque l'univers, c'était l'espace et le temps, et que cet espace, il est totalement déterminé, puisque nous connaissons ses propriétés que nous apprenons à l'école. Mais la relativité générale a introduit trois innovations. La première innovation, Einstein 1905, avec la relativité restreinte, il dit que, en fait, le cadre dans lequel on doit travailler en physique, ça n'est pas l'espace, mais c'est l'espace-temps. C'est-à-dire que, alors que depuis Newton, on considérait l'espace et le temps comme deux entités totalement séparées, eh bien non, on est obligé de les mêler. Et depuis, il y a eu des tas d'expériences, des tas d'observations qui nous ont confirmé dans cette voie. Donc ça, c'est le premier élément novateur de la relativité générale. Le deuxième élément novateur, c'est que cet espace-temps a une structure géométrique qui généralise celle de l'espace et que cette structure n'est plus celle... Merci. N'est plus celle d'un espace euclidien. C'est un espace plus compliqué qu'on appelle non-euclidien et dont les propriétés ont été découvertes, comme je l'ai dit, au XIXe siècle. Et on caractérise cet espace par une courbure, par une déformation. Et finalement, l'espace dans son entier, ou plutôt l'espace-temps, puisqu'on doit parler en termes d'espace-temps, a une forme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas représenter cette forme, puisque quand on représente la forme d'une surface, par exemple, c'est parce que cette surface est à deux dimensions et que je peux la placer à l'intérieur de l'espace ordinaire à trois dimensions. Mais évidemment, si je considère un espace entier, ou même pire, un espace-temps à quatre dimensions, je ne peux pas le placer à l'intérieur de l'espace et je ne peux pas non plus le dessiner sur une feuille de papier. Donc ce sont des choses que les géomètres conçoivent très bien, dont ils connaissent et ils peuvent étudier très bien les propriétés, mais qu'on ne peut pas représenter. Un des problèmes de la relativité générale et de la cosmologie, c'est précisément de se demander quelle est la forme de cet espace-temps. Et la forme de cet espace-temps, ce sera vraiment la forme de l'univers lui-même. Alors quand on dit quelle est la forme de cet espace-temps, ça revient à dire quelle est sa géométrie. Je vous ai dit que la géométrie, on la décrivait en termes de courbure, donc on va se demander quelle est la courbure de cet espace-temps. Dans la courbure de l'espace-temps, il y aura une partie plutôt associée à l'espace, une autre plutôt au temps. Eh bien, il faudra essayer de savoir quelles sont les deux parties de la courbure. Alors ici, c'est un petit diagramme, bon, pour les spécialistes, je dirais, qui montre comment l'espace et le temps, finalement, sont représentés comme des dimensions relativement équivalentes. Vous avez sans doute au lycée appris que dans l'espace, qu'on appelle l'espace euclidien, quand on fait de la géométrie dans l'espace, on a un axe de coordonnées qu'on appelle souvent x, y, z, et ce sont trois dimensions d'espace, et on peut faire des rotations dans l'espace, c'est-à-dire si vous avez un objet qui est ici, par exemple, on peut lui faire subir une rotation, et il va y avoir par cette rotation un échange de dimensions spatial, c'est-à-dire un objet peut être sur cette dimension, si je le fais tourner, il va être sur cette dimension. Eh bien, quand on est dans l'espace-temps, ça ne signifie pas rien, ça n'est pas seulement un mot de dire qu'on est dans l'espace-temps, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une possibilité de mélange entre les dimensions d'espace et les dimensions de temps. Bon, il faudrait que je vous fasse un cours entier pour vous expliquer comment ça marche, mais je voudrais insister sur le fait que c'est une réalité tout à fait concrète. Bien sûr, elle est de nature géométrique, mais elle est tout à fait concrète, et il existe des tas d'expériences, de résultats d'expériences et d'observations qui confirment cette réalité, qui confirment le fait que nous vivons dans l'espace-temps et non pas dans l'espace et temps séparés. Donc, le diagramme précédent vous illustrait le premier point révolutionnaire dans cette théorie de la relativité, le fait que l'on remplace l'espace par l'espace-temps. Cette illustration, qui est également tirée du film que vous verrez peut-être, illustre, si vous voulez, la courbure de l'espace-temps. Ça n'est pas un dessin réaliste, mais c'est quelque chose qui illustre le fait que la lumière, dans un espace-temps courbe, ne peut pas se propager en ligne droite, tout simplement parce que dans un espace-temps courbe, il n'y a pas de ligne droite. Il y a quelque chose que l'on appelle les géodésiques. Elles ne sont pas droites, elles sont courbes, et ça généralise, si vous voulez, ce qu'étaient les lignes droites dans l'espace sans courbure. Et donc la structure de l'espace-temps courbe, elle est d'une certaine manière tissée par ces géodésiques, c'est-à-dire ces rayons lumineux. Donc si on veut essayer de se représenter la forme de l'espace-temps, ou de la forme ici d'un petit morceau d'espace-temps, eh bien on va avoir quelque chose de ce genre. Et en fait, c'est une réalité, cette courbure. Alors c'est assez difficile à expliquer, mais on l'observe. Et vous voyez qu'ici, il y a un fameux arc, ce qu'on appelle un arc gravitationnel, qui a été découvert il y a maintenant, je pense, une quinzaine d'années à peu près. Et les astronomes ont compris que c'était directement le signe de la courbure de l'espace-temps. Comment ça se fait? En fait, tout cet arc lumineux, c'est l'image d'une galaxie. D'une galaxie qui n'a pas du tout la forme d'un arc, mais qui a une forme, je dirais, totalement circulaire, si on la voyait normalement. Sauf que, vous voyez ici, au premier plan, toutes ces structures, les couleurs évidemment ne sont pas réelles, ce sont des codages, c'est une photo du ciel. Toutes ces structures jaunes à centre rouge, ce sont des galaxies. Et l'ensemble est un amas de galaxies qui représente beaucoup de masse. Il est très loin, je ne sais plus sa distance, mettons qu'il soit à 1 milliard d'années-lumière de nous. Beaucoup plus loin, c'est-à-dire à 2 milliards de nous, 2 milliards d'années-lumière de nous, il y a un autre objet, une galaxie, qui n'a pas la même couleur, qui serait uniquement bleue, et qui est circulaire. Et il se trouve que quand les rayons lumineux qui viennent de cette galaxie très lointaine arrivent vers nous, eh bien ils sont courbés par la masse énorme de cette galaxie. Et le fait que ces rayons lumineux soient courbés entraîne que cet amas de galaxies agit comme une lentille qui va amplifier et qui va déformer l'image de la galaxie. C'est-à-dire que le fait que l'on ait une image déformée en forme d'arc de cette galaxie circulaire, beaucoup plus lointaine, est la preuve directe que les rayons lumineux sont courbés par la gravitation. Donc c'est la preuve directe que l'espace-temps a une forme. Je vous ai dit, cette forme, on ne peut pas la voir, puisqu'on ne peut pas voir l'espace-temps, on ne peut pas voir l'espace non plus. Mais On ne peut pas non plus voir un rayon lumineux, mais le fait qu'il nous arrive en déformant une image, c'est le signe qu'il a été courbé, qu'il s'est propagé dans un espace-temps qui est courbe. Voilà un autre cas de mirage gravitationnel, d'arc gravitationnel. Eh bien, on en connaît aujourd'hui plusieurs dizaines. Je pense qu'on est proche de la centaine. Ils sont plus ou moins bien visibles. Et c'est une source d'informations extrêmement intéressante parce qu'en analysant leurs propriétés, on peut remonter, on peut connaître la courbure de l'espace-temps précisément. Et je vous ai dit que le grand problème des cosmologues, c'est de connaître cette courbure, cette forme de l'espace-temps. Alors une autre manière de voir l'espace-temps dans sa globalité, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. En fait, si vous connaissez un peu les modèles de Big Bang, vous avez dû entendre dire que ces modèles prédisaient que l'univers est rempli d'un rayonnement qui s'est propagé depuis le début de l'univers, depuis 15 milliards d'années, jusqu'à nous. Et d'une certaine manière, ce rayonnement nous donne une image de l'univers tel qu'il était il y a 15 milliards d'années. Donc nous donne une image, finalement, de la forme de l'univers. Et ce qui est caractéristique, c'est que ce rayonnement est extrêmement uniforme. Vous voyez, il est à peu près le même partout. Bon, le fait que ça passe du bleu au rouge, c'est quelque chose qui s'explique très bien. Ça ne rentre pas ici en ligne de compte. Donc ce rayonnement est extrêmement homogène, à part des très petites inhomogénéités, c'est une autre histoire. Mais ça nous donne, finalement, ça nous confirme, ça nous indique plutôt que l'univers, il y a 15 milliards d'années, était extrêmement homogène, qu'il avait les mêmes propriétés partout. Donc c'est une manière aussi de voir la forme de l'espace-temps, la forme de l'univers. Ça, c'est le spectre du même rayonnement, mais je ne veux pas insister. Alors ceci, c'est quelque chose d'assez curieux, puisque je vous ai dit que les cosmologues s'intéressaient à la forme, en fait la courbure de l'espace-temps. Et que dans cette courbure, on pouvait distinguer les aspects temporels et les aspects spatiaux. L'aspect temporel, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le fait que l'univers est en expansion. Vous savez tous que l'univers est en expansion, c'est quelque chose qui est maintenant parfaitement admis, parfaitement connu, mesuré. Eh bien, l'expansion de l'univers, d'une certaine manière, c'est un aspect de la courbure de l'espace-temps, c'est l'aspect temporel de la courbure de l'espace-temps. Bon, le fait de savoir si cette expansion est plus ou moins accélérée ou bien décélérée, ralentie, si elle va s'arrêter ou pas, c'est quelque chose que les astronomes, les cosmologues explorent, et donc c'est une manière d'explorer la forme de l'espace-temps, la partie temporelle. En ce qui concerne la partie spatiale, eh bien, on ne sait pas si l'univers a plutôt la forme plate de l'espace euclidien, comme d'un plan, ou bien plutôt d'une sphère, ou bien quelque chose d'un peu plus compliqué, qui serait ce qu'on appelle un espace hyperbolique. Donc, on ne sait pas, on se demande, c'est le sujet de beaucoup d'investigations, de beaucoup d'observations actuelles de la cosmologie. Et en même temps, je vous ai parlé de la forme de l'espace et sa courbure, mais c'est aussi ce qu'on appelle sa topologie. La topologie, c'est un aspect géométrique différent de la courbure. Si vous prenez une feuille de papier, elle est plate. Si vous en faites un rouleau, un cylindre, elle va garder les mêmes propriétés de courbure. En fait, techniquement, mathématiquement, elle reste plate, mais voyez qu'elle a la forme d'un cylindre, et la forme n'est pas la même, on dit que c'est une topologie différente. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il est tout à fait possible que l'espace ait une topologie qui ne soit pas la topologie ordinaire. C'est-à-dire, non seulement, selon la relativité générale, l'espace a une courbure, mais il peut avoir aussi une topologie qui soit remarquable. Ce sont les deux aspects qui vont caractériser sa forme. Eh bien, ceci, c'est l'illustration d'une des possibilités, justement, de formes relativement étranges que pourrait avoir l'espace, que pourrait avoir la topologie de l'espace. C'est une sorte de forme cristalline, et d'une certaine manière, l'espace peut être cristallin. Bon, c'est ce que dit la théorie, parce que quand on se tourne vers les observations, bah évidemment, les observations nous disent que l'espace n'est probablement pas comme ça, mais la théorie nous disait que c'était possible. Alors, vous avez tous entendu parler, je pense, des trous noirs. Eh bien, les trous noirs, ce sont des objets qui sont tellement condensés qu'ils ont une attraction gravitationnelle qui va retenir même la lumière. C'est pour ça qu'ils sont noirs, parce qu'il n'y a pas de lumière qui sort de leur environnement. Et en même temps, ils modifient la structure de l'espace-temps. Un trou noir, c'est quelque chose qui modifie la structure de l'espace-temps très localement, mais ça peut être très important localement. Si vous avez par exemple un énorme ballon, eh bien, le fait qu'il y ait un tout petit trou dans le ballon, ça va vous modifier beaucoup de choses dans l'état du ballon. Eh bien, un trou noir lui-même, ça ne va pas avoir de conséquences très importantes, mais il peut y avoir, vous voyez, un trou noir, ici, une illustration, c'est une sorte de point où la courbure de l'espace-temps devient tellement énorme que tout va tomber dedans comme dans un trou. Mais ce qu'il peut y avoir d'absolument remarquable, c'est que quelque part dans l'espace, il peut y avoir un trou noir, et puis qu'autre part dans l'espace, il y a un autre trou noir, et que les deux se rejoignent. Et si ce genre de choses se produit, ce qu'on appelle un pont d'Einstein-Rosen quelquefois, on ne sait pas si c'est possible vraiment ou pas, on pense que ça peut l'être, eh bien c'est très intéressant parce que ici ça peut être notre environnement et ici ça peut être la galaxie d'Andromède. Et pour aller de chez nous à la galaxie d'Andromède, ben, normalement il y a 1 million d'années-lumière. Sauf que s'il existe quelque chose de ce genre, il peut y avoir un trajet de 10 mètres de long simplement, quelque chose de presque un court-circuit, si vous voulez, dans la structure de l'espace-temps. Ceci est possible, encore une fois, c'est changer la topologie. C'est-à-dire, supposons que vous ayez un ballon relativement souple, la distance entre un pôle et l'autre est très grande, sauf si le ballon est souple et que vous arrivez à enfoncer les pôles dans le ballon et à les faire se toucher. Eh bien, ce serait quelque chose de ce genre-là qui peut arriver dans la forme de l'univers. Mais là, on sort du cadre de la cosmologie classique. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici, puisque nous sommes arrivés à ce que dit la cosmologie classique. Ce que dit la cosmologie classique, je veux dire celle d'aujourd'hui, qui est fondée sur la relativité générale, elle dit que l'univers, c'est un espace-temps. Bien sûr, dans cet espace-temps, il y a quelque chose, ce quelque chose a une structure, mais l'espace-temps lui-même a une structure. Une structure repérée par une géométrie exprimée par une courbure et une topologie. Ce que cherchent les astronomes, les cosmologues, c'est à connaître cette structure, cette forme de l'espace-temps. Je vous en ai donné certains aspects, il y a certains aspects qu'on connaît. On se demande toujours quelle est la courbure de l'espace, on se demande toujours si elle est positive ou négative, on se demande toujours si l'espace est fini ou infini, s'il est plutôt sphérique ou plutôt plan. Ce sont des questions que l'on se pose et dont on cherche les réponses dans l'observation, mais en tout cas, du point de vue théorique, tout ceci est parfaitement sans paradoxe, sans qu'on ait de difficulté à comprendre ce qui se passe. Il y a plusieurs possibilités. En faisant des observations, on cherche quelle est la bonne. Bon, et j'ai très vaguement mentionné ici les possibilités un peu plus spéculatives, c'est-à-dire que, bien entendu, vous voyez qu'il y a eu ce passage, premier passage avec les Grecs, pas d'espace, et puis avec Newton, l'introduction de l'espace le plus simple que l'on connaisse, le seul que l'on connaissait à l'époque, l'espace euclidien. Ensuite, deuxième révolution scientifique au début du XXe siècle, remplacement de l'espace euclidien par les espaces et les espaces-temps non euclidiens que l'on venait de découvrir. Eh bien, si l'on se demande quelle va être la prochaine révolution en physique, si jamais il doit y en avoir, eh bien, tout naturellement, il nous vient à l'idée que ça va être le remplacement de ces espaces non euclidiens par autre chose. Par quoi ? Eh bien, les mathématiques et la géométrie du XXe siècle ont été très riches en découvertes de nouvelles structures, qu'on ne peut peut-être pas appeler des espaces ou des espaces-temps, mais qui généralisent la notion d'espace et d'espace-temps, un peu de la même manière que les espaces non euclidiens généralisaient les espaces euclidiens. Alors, il faudrait tout un cours de géométrie pour vous parler de ces structures, mais elles existent, les mathématiciens travaillent dessus, les physiciens commencent à travailler dessus, et peut-être qu'au XXIe siècle, eh bien, il y aura une nouvelle révolution scientifique qui sera fondée sur une nouvelle géométrie, et que dans 50 ans ou dans un siècle, eh bien, je reviendrai vous en parler. Merci.
Oui.
Peut-être que vous avez des questions.
Je crois que d'abord, on va vous remercier pour votre intervention et puis donner tout de suite la parole à la salle, vu l'heure assez avancée. Juste une précision. Je coupais tout à l'heure, évidemment, le temps et l'espace sont des formes a priori de la sensibilité et non pas de l'entendement. Vous m'aurez compris.
S'il vous plaît. Au point de vue historique, je crois savoir que Aristarque de Samos, 2 siècles avant Jésus-Christ, avait démontré que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, et Ératosthène également avait même mesuré le diamètre de la Terre.
Tout à fait. Les Grecs avaient énormément de connaissances. Peut-être en ce qui concerne la rotation de la Terre, je ne pense pas qu'ils l'aiment. Si vous voulez, la rotation, c'est un mouvement relatif. Donc, d'une certaine manière, ça n'a pas de sens de dire que la Terre tourne autour du Soleil plutôt que le Soleil autour de la Terre, puisque la notion de référentiel absolu n'existe pas. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous, les Grecs avaient déjà une connaissance géométrique extrêmement bonne de la sphéricité de la Terre, et puis de ses dimensions, même de la dimension de la Lune, et il y avait des tas de mesures très, très ingénieuses, je ne dirais pas très précises, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas d'instruments de visée très précis, ni de lunettes, ni de télescopes, mais les méthodes étaient déjà les bonnes, et ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est qu'avec si peu d'instruments, ils aient réussi à faire des mesures qui étaient déjà dans le bon ordre de grandeur, très nettement.
Une deuxième question, ou plutôt une remarque, quand vous dites que l'univers a une courbure, n'est-ce pas la masse qui provoque la courbure de l'univers ?
Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Encore qu'il faille prendre le mot masse dans un sens très général, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la masse dans le sens habituel, mais c'est tout ce qui est de l'énergie, et c'est même peut-être l'énergie et d'autres choses encore qu'on n'ose pas vraiment baptiser l'énergie. Mais en tout cas, ce que dit la relativité générale, c'est le troisième message dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'est qu'effectivement, cette structure de l'espace-temps, en fait, la partie courbure dans la structure, elle est déterminée par le contenu et, plus précisément, par la masse et l'énergie et le moment cinétique.
J'ai lu un petit peu Hubert Reeves et il dit que l'univers est né il y a 15 milliards d'années. Mais alors avant, il n'y avait pas de temps, puisque bon, il n'y avait pas de différenciation à l'intérieur de cette masse indifférenciée, puisqu'il dit que justement c'est le moment où il y a eu l'apparition de l'hélium, tout ça. Enfin bref, bon, je ne suis pas un spécialiste, donc je voudrais savoir, avant le Big Bang, on ne sait pas ce qu'il y avait, mais enfin il y avait quelque chose de toute façon.
On ne sait pas.
Et justement, ce que vous dites, c'est les théories s'appliquent uniquement. À la naissance de l'univers, c'est-à-dire de l'espace-temps, à partir du moment où l'univers a commencé à avoir une histoire depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais ce qu'il faudra peut-être un jour chercher à savoir, c'est ce qu'il y avait avant. Enfin, je veux dire, c'est ce que dit Barive, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Enfin, bon, est-ce qu'il y avait quelque chose avant ? Mais c'est étrange, on est incapable de le...
Peut-être qu'il n'y avait pas quelque chose avant. C'est-à-dire, déjà, la notion d'avant, elle n'est pas certaine. Ce qui se passe...
Rien ne naît de rien. Enfin, rien ne naît de rien.
Oui, je suis
C'est toujours vrai. Hein.
Enfin, non, je ne suis pas forcément d'accord. On n'en sait rien. C'est-à-dire que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que l'on part, finalement, de l'état de l'univers dans lequel il est aujourd'hui, et puis on essaye de reconstituer le passé. Un petit peu comme si, en examinant quelqu'un, en regardant les documents, vous essayez de reconstituer son passé. Et en ce qui concerne l'univers, on a des informations qui viennent d'assez loin. On observe des galaxies très lointaines qui ont 10 milliards d'années, 12 milliards d'années. On observe ce fameux feu cosmologique qui a 15 milliards d'années. Donc on a des informations sur l'état de l'univers dans le passé. Et en même temps, on connaît les lois physiques qui s'appliquaient, les lois de l'électromagnétisme, physique atomique, physique nucléaire. Donc on reconstitue ce passé. Et la caractéristique que l'on observe, c'est que comme l'univers est en expansion, la matière se dilue, se refroidit. Conséquence immédiate, dans le passé, c'était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud. Et plus on remonte dans ce passé, plus c'était dense et plus c'était chaud. Donc plus les conditions physiques sont éloignées de celles qu'on connaît. Et arrive un certain moment où les conditions physiques étaient tellement extraordinaires qu'on est sûr d'une chose, c'est que la physique que nous connaissons ne s'appliquait pas. Donc la reconstitution s'arrête. C'est pas qu'il y a eu quelque chose de spécial qui s'est produit à ce moment-là dans l'histoire de l'univers, c'est simplement qu'on n'a plus les outils pour l'examiner. C'est comme si vous examinez, si vous voulez, l'histoire de ce qui s'est passé à Paris dans les derniers siècles, et puis à un moment, il n'y a plus d'archives. Les archives, elles ont été par exemple brûlées à la Révolution. Donc vous n'allez pas dire l'histoire de Paris commence à la Révolution, mais il n'y a plus d'archives avant. Ben là, c'est pareil. L'histoire de l'univers ne commence pas il y a 15 milliards d'années, mais on n'a aucun moyen de l'explorer avant. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de théorie physique qui permette de l'aborder. On essaye, bien sûr, d'améliorer nos théories physiques pour le faire, notamment d'essayer d'unifier la physique quantique et la relativité, qui pour le moment sont antagonistes, on n'y arrive pas. Et ce qui est sûr, et c'est un petit peu aussi le sens de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que si on y arrive, ça impliquera des conceptions différentes de l'espace et du temps. Donc parmi toutes les conceptions différentes qu'on peut imaginer, il y en a où l'espace et le temps ne sont même pas définis, donc il faut complètement repenser les choses et peut-être ne pas penser en termes d'avant. Mais selon moi, cette période n'est sûrement pas la création de l'univers. Pour moi, la création de l'univers, ça ne peut pas être un processus temporel. Donc ça n'a aucun sens de dire l'univers est né il y a 15 milliards d'années, ou aujourd'hui, ou demain, ou hier. Il est né d'une manière intemporelle. Ça n'a aucun sens de considérer la création de l'univers comme un événement qu'on pourrait situer dans le temps. Par exemple, il y a 15 milliards d'années, ou 4000 ans, ou quoi que ce soit. Je ne peux pas donner de sens à ça. Si jamais il y a quelque chose qui s'appelle la création de l'univers, ça n'est pas plus il y a 15 milliards d'années qu'aujourd'hui, ou demain, ou c'est atemporel. Puisque c'est précisément la création du temps, et la création du temps ne peut pas être faite à un instant du temps. C'est logiquement impossible.
Bien. Petite question d'un néophyte, hein, astronome amateur mais récent. Quand on parle de la courbe de l'espace-temps, ça rejoint un peu cette notion-là. La question que je me suis toujours posée, et encore aujourd'hui, nous avons la Terre qui tourne sur elle-même, le système solaire, etc., la galaxie qui fait un tour sur elle-même en 200 millions d'années. Comment explique-t-on la rotation des différents objets stellaires? Et est-ce que c'est fait partie de la masse manquante, etc., cette énergie qui sert à...
Il n'y a pas de relation directe, mais pourquoi...
Mais pourquoi les objets tournent sur eux-mêmes?
Par exemple, prenons la Terre...
Quel est l'équilibre, quoi?
Oui, pourquoi la Terre tourne? En fait, quand on regarde bien la manière dont la Terre s'est formée, et dont le système solaire s'est formé, d'ailleurs, le système solaire s'est formé à partir d'un nuage de gaz qui tournait sur lui-même, tout simplement parce qu'il y avait des mouvements dans tous les sens, donc il y avait une rotation faible du nuage de gaz en question, une rotation faible. Et quand il s'est condensé, vous savez, c'est la fameuse histoire du patineur. Oui, il s'est condensé sous l'effet de la gravitation, de son propre poids. Et c'est la fameuse histoire du patineur qui tourne lentement, et puis quand il se ramasse sur lui-même, il se met à tourner plus vite, pour conservation du moment angulaire, c'est de la physique de base. Donc, quand le Soleil se contracte, il se met à tourner très vite. Et c'est pareil pour les planètes. Dès qu'il y a une contraction, la vitesse de rotation augmente. Et ça, c'est une loi physique de base, complètement basique. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Si vous voulez, dans l'univers, il y a une certaine agitation quand les galaxies se forment, quand les étoiles se forment. Cette agitation se traduit par, à chaque endroit, une rotation relativement faible. Et quand ces zones avec une rotation très faible, mais qu'on explique très bien, se condensent, la rotation augmente et à la fin, on arrive à des valeurs très élevées de la rotation, et ceci à toutes les échelles que vous mentionnez. Il n'y a pas de problème. Évidemment, pour s'en convaincre, il faut un petit peu plonger dans les équations, mais c'est de la physique. Même avec la physique newtonienne, on comprend très bien ça.
Au niveau bilan énergie, il n'y a pas de...
Je ne sais pas ce que vous appelez des soucis. Si vous voulez, le concept d'énergie disparaît en relativité générale. Par exemple, la conservation de l'énergie est une loi de la physique newtonienne, mais pas de la relativité générale. Justement, on remplace ça par quelque chose de plus compliqué, qui s'appelle le tenseur d'énergie-impulsion. C'est une géométrie un peu plus compliquée, mais non, je dirais, il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai que quand on fait l'analyse dynamique, on s'aperçoit qu'apparemment, il manque de la masse. C'est ce que vous suggérez, le problème de la masse manquante. C'est-à-dire que pour comprendre... Ah, je comprends maintenant le sens de votre question. Oui, d'accord. C'est-à-dire, on comprend pourquoi les galaxies tournent vite, mais on ne comprend pas pourquoi elles continuent à tourner aussi vite à leur périphérie. Oui, c'est vrai. Bon, tout ça, c'est le fameux problème de la masse manquante. C'est-à-dire, pour qu'un objet tourne, plutôt que d'aller tout droit, eh bien, par exemple, prenez la Terre qui tourne autour du Soleil. Pourquoi la Terre ne va pas tout droit dans l'espace, par inertie? Tout simplement parce que le Soleil la retient avec sa masse. Donc, dès qu'un objet tourne, c'est que quelque chose le retient pour l'empêcher d'aller tout droit. Ce quelque chose, c'est de la masse. Et quand on fait des calculs, on mesure la vitesse de l'objet, sa distance au centre de la condensation, et on calcule très facilement la masse qui doit être là pour le retenir. Et si on fait ce calcul avec la Terre, on va trouver la masse du Soleil, ça marche très bien. Et quand on fait le même calcul pour une galaxie, eh ben on s'aperçoit que la masse nécessaire pour retenir les étoiles qui tournent au bord de la galaxie, eh bien, elle est 10 fois plus grande que la masse que l'on voit. D'où l'idée qu'en plus de la masse que l'on voit, il y a de la masse que l'on ne voit pas. Et comme on ne la voit pas, on l'appelle cachée ou on l'appelle manquante. Masse cachée, masse manquante. Il y en a beaucoup, il y en a 10 fois plus que ce qu'on voit. Quelle est sa nature? C'est un problème qui obsède les astronomes depuis plus de 50 ans. Et c'est vrai qu'on n'a toujours pas trouvé ce que c'était, à tel point que comme on la cherche depuis 50 ans et qu'on ne la trouve pas, certains commencent à se dire qu'il y a peut-être une autre explication. Mais laquelle? Oui. Vous avez raison, c'est un problème de l'astronomie, qui n'a rien à voir avec la cosmologie. C'est juste un problème d'analyse de mouvement à l'intérieur des galaxies.
Excusez-moi, j'ai une question assez naïve, parce que bon, je ne connais rien du tout à ça. Simplement, j'ai été très marqué par l'idée que la lumière n'est pas censée avoir de masse, et que cependant elle est attirée par les trous noirs, comme quoi, mine de rien, elle est déviée par quelque chose. Donc comment quelque chose de sans masse peut être dévié, c'est bon, une curiosité. Et les questions que je me pose également par rapport au fait que, dans l'image que vous nous avez montrée de la lumière qui provient d'une galaxie plus lointaine et qui est déformée par une galaxie plus proche, est-ce que la lumière peut affecter ou dévier la lumière?
D'accord. Pourquoi, quand on dit la lumière est déviée, c'est une image. En fait, la lumière, elle se propage, elle ne peut se propager que dans l'espace-temps, et comme l'espace-temps est courbe, elle va suivre la courbure de l'espace-temps, c'est tout. Le fait que ça ait une masse ou pas n'a aucune importance. Elle ne peut pas faire autrement que suivre la courbure. Si vous lancez une bille sur une surface où il n'y a pas de droite, il n'y a pas de droite, donc la bille ne peut pas suivre une droite. Dans l'univers, il n'y a pas de droite, puisqu'il est courbe, donc la lumière ne peut pas suivre une ligne droite, et elle suit forcément une ligne qui est courbe. Et la lumière représente de l'énergie, pour répondre à votre deuxième question. Toute énergie exerce une influence gravitationnelle sur la structure de l'espace-temps, donc, effectivement, la lumière peut exercer une influence sur l'espace-temps, et donc une courbure. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan dans l'univers, il y a tellement peu de rayonnement par rapport à la matière que ça ne compte pas. Mais si on remonte dans le passé, c'était le contraire. L'énergie représentée par le rayonnement était beaucoup plus importante que celle de la matière, et ce qui dominait, ce qui déterminait la dynamique de l'univers, c'était beaucoup plus le rayonnement électromagnétique essentiellement, que la matière.
Oui, c'est une question. Dans le modèle de Newton, il y avait une gravitation, une force inexplicable qui attirait les objets. Dans le modèle de Einstein, ce serait la courbure de l'espace-temps qui peut rendre compte complètement du phénomène attractif.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'invoquer des forces, sauf si on veut parler de l'électricité, par exemple. Mais en ce qui concerne la gravitation, chez Einstein, il n'y a plus de force. Les objets suivent simplement la courbure de l'espace-temps et ça explique tout. La notion de force disparaît. C'est pour ça d'ailleurs que le fait que les photons aient une masse ou pas, les rayons lumineux, ils suivent de toute façon cette courbure. Alors comme ils vont plus vite, ils vont à la vitesse de la lumière précisément, ils ne suivent pas les mêmes trajectoires, c'est-à-dire qu'un photon n'a pas la même trajectoire qu'un boulet de canon, mais les deux sont assujettis à suivre la courbure de l'espace-temps.
Et ça rend compte parfaitement, explique parfaitement, par exemple, que nous nous tombions au centre de la Terre alors que la
tout
Terre
à fait,
est
tout à fait,
une
tout
petite
à fait.
Masse. Oui, y a pas
tout
de...
à fait, ça rend très bien compte. Et il y a même certains phénomènes, comme vous le savez, dont la physique newtonienne ne peut pas rendre compte en termes de force et dont la relativité générale rend très bien compte dans ces termes géométriques.
Merci.
Oui, une petite question technique. On vient de parler de la déviation de la lumière par les masses. On connaît l'expérience lors des éclipses de soleil où on peut pratiquement montrer la déviation de la lumière par rapport à la position d'une étoile. Mais il y a une chose qui me tarabuste. J'ai lu que la déviation, en appliquant les règles de la relativité, était double de celle en appliquant la théorie newtonienne. Ma question est, comment la théorie newtonienne explique la déviation de la lumière par les masses?
Alors, c'est vrai qu'on lit ça quelquefois. À vrai dire, ce n'est pas la théorie de Newton elle-même qui décrit cette courbure. C'est une sorte de réinterprétation de la théorie de Newton que l'on fait. Je crois qu'il vaut mieux pas que je me lance dans des explications, parce que ça n'a pas grand intérêt, si vous voulez. C'est, en fait, comment dire... Bon, c'est clair que la relativité prédit une courbure. La théorie de Newton, ça dépend comment on l'écrit. En fait, pour obtenir cette courbure, on prend un objet qui a une masse, on calcule sa trajectoire, et puis ensuite, mathématiquement, on fait tendre la masse vers zéro et on trouve qu'il y a une courbure. Mais c'est pas, en fait, ce n'est pas la prédiction newtonienne. Donc ça n'a pas grand intérêt, cette remarque, oui, je pense.
Si. Question donc d'un néophyte aussi. Donc, si tout s'inscrit dans les courbures de l'espace-temps, les objets qui sont autour de nous appartiennent donc à l'espace-temps. Nous donc aussi. Nous serons aussi, comment dire, dans des... sans aborder enfin, la question des univers, mais nous rentrions donc... est-ce que nous rentrions, nous, par nos actions, dans la courbure de l'espace-temps d'un objet? Ou est-ce que l'espace-temps, est-ce que l'objet reste dans son espace-temps lorsqu'on le croise ?
Nous sommes tous dans le même espace-temps et chacun de nous contribue un peu à la courbure de l'espace-temps. C'est-à-dire, si je calcule la courbure de l'espace-temps dans le coin de la salle, il y aura une petite contribution de chacun de nous et puis de tous les objets qui sont là, de cette table, etc., de la masse de la Terre, évidemment, bien plus grande, etc. Et chacun, nous sentons la contribution de tous les autres à la courbure de l'espace-temps qui va faire que... alors évidemment, c'est très, très infime parce que chacun de nous a une masse tellement minuscule par rapport à la masse de la Terre. Mais par exemple, si je lâche un objet, il va vers le centre de la Terre. Si il y a un gros objet massif à côté, au lieu d'aller vers le centre de la Terre, il va être un petit peu dévié. C'est infime, c'est archimicroscopique, et c'est à la limite du mesurable, mais c'est quelquefois mesuré. C'est comme ça qu'on mesure la constante de gravitation. Donc, cet objet qui est ici... S'il est là, il va créer une courbure de l'espace-temps différente qui va faire que l'objet ne tombe pas tout à fait de la même manière. L'objet ou un rayon lumineux.
Excusez-moi, toujours un néophyte. La base de calcul de l'espace-temps, c'est la vitesse de la lumière ou ça n'a aucun rapport ?
C'est vrai que la vitesse de la lumière est une constante fondamentale qui rentre dans la structure de l'espace-temps. C'est pour ça que c'est même plus une vitesse, c'est quelque chose qui, par définition, est constant. Exactement. Donc il y a par exemple des gens qui parlent de la variation de la vitesse de la lumière, ça n'a pas de sens. C'est comme si on disait, est-ce que le nombre 2 a varié pendant l'histoire ? Ben, non, puisque par définition, c'est quelque chose de fixe.
D'accord. C'est donc que les objets sont à la fois une onde et un corps à la fois.
C'est une autre théorie qui est la physique quantique, qui décrit la matière, non pas en termes de particules, mais en termes d'ondes.
D'accord, rien à voir avec l'espace-temps.
C'est aussi dans l'espace-temps, mais effectivement, il y a des difficultés à concilier les deux approches.
Oui, je voulais juste que vous apportiez une précision. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'espace chez les Grecs, mais en même temps, vous avez parlé d'espace euclidien. Et j'aimerais bien que vous...
Il n'y a pas d'espace physique.
Physique, oui.
Oui. C'est-à-dire que effectivement toutes les propriétés de l'espace euclidien ont été énoncées par Euclide, mais je ne crois même pas qu'Euclide ait dégagé le concept d'espace, de ce qu'on appelle l'espace euclidien. C'est-à-dire que les géomètres grecs s'intéressaient plutôt aux propriétés des figures dans l'espace, qui sous-entendaient implicitement les propriétés de l'espace, mais je ne crois pas que les Grecs aient... explicitement dit nous sommes dans un espace, nous plaçons les figures dans un espace qui a telle ou telle propriété. C'était implicite et par la suite les mathématiciens, les géomètres l'ont reconnu et ont appelé l'espace euclidien comme ça, mais je pense que même si l'espace existait implicitement mathématiquement, ça n'était pas dit de cette manière. Et de toute manière, l'espace physique n'était jamais invoqué chez les Grecs.
La notion de cosmos chez Aristote, le cosmos en tant que corps lui-même, le cosmos étant lui-même un corps, qui comprend tous les corps, est-ce que s'il n'y a pas là quelque chose comme un espace physique?
Le cosmos, c'est plutôt Platon d'ailleurs, mais c'est plutôt l'idée d'harmonie, justement. Le mot cosmos, d'ailleurs, que Platon a utilisé pour décrire le monde, c'est un mot qui, en grec, avait la signification d'harmonie, et qu'on retrouve d'ailleurs, on retrouve la racine dans les cosmétiques. Et en utilisant ce terme, Platon soulignait cette sorte d'harmonie du monde. Et bien évidemment, ce monde contient tout, comme vous le dites, mais ça n'est pas lié au fait qu'on l'appelle cosmos, puisque le mot cosmos, c'est fait pour insister sur l'idée de son harmonie.
Non, je crois que chez Aristote, le cosmos est une idée séminale qui signifie le corps, qui comprend tous les corps.
Et ça, c'est le monde, si vous voulez, c'est-à-dire dans son ensemble. Oui, mais c'est Platon qui a introduit le terme de cosmos, justement.
Mais Aristote était élève de...
Bien sûr, de Platon, oui.
Il a développé ça par la suite.
Dans sa cosmologie. C'est-à-dire Aristote a écrit un traité de cosmologie. Mais je ne sais pas si ce que vous dites, c'est sur ce point précis.
Non, c'est-à-dire que vous avez fait allusion à l'étymologie du terme cosmos et s'apparenter avec le terme cosmétique.
Bien sûr.
Tous les corps, c'est-à-dire que le cosmos est lui-même un corps. Et par conséquent, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose comme un espace chez Aristote.
Ah non, il n'y a certainement pas d'espace, c'est plutôt la notion de lieu. Et justement, je vous ai mentionné tout à l'heure un des problèmes liés à la sphère des fixes, parce que si vous voulez, la sphère des fixes, cette dernière sphère qui est la frontière de l'univers, d'une certaine manière, elle contient toutes les autres. Et dans le langage d'Aristote, justement, se posait le problème de savoir quel est le lieu de cette sphère des fixes. Et le problème était d'autant plus aigu que cette sphère des fixes devait être en rotation, et pour qu'on puisse considérer un objet en rotation, il faut que l'on puisse définir son lieu. Mais comme cette sphère des fixes n'est dans rien d'autre, on ne peut pas parler de son lieu. Et je vous ai mentionné tout à l'heure le fait qu'il y avait cette difficulté due au caractère fini de l'univers que j'ai illustré par la main que l'on passe, et je vous ai mentionné une difficulté plus technique, c'est celle-ci, c'est-à-dire que dans le langage même d'Aristote, c'est-à-dire avec cette conception des lieux, eh bien on n'arrivait pas à rendre compte de tout ça. Et en fait, ça c'est une imperfection de la cosmologie d'Aristote qui a été reprise et soulignée depuis Aristote jusqu'à la Renaissance, y compris par les partisans même d'Aristote et par tous les Arabes qui voulaient se faire les supporters d'Aristote. Et en fait, c'était justement, ça ne marchait pas parce qu'Aristote n'avait pas le concept d'espace. Et ce concept de lieu était insuffisant pour décrire les choses. Enfin, je dis concept, c'est peut-être aller un peu vite, mais c'est notion.
Le temps tourne. On va peut-être prendre une... Ouais. Bon, on peut retenir ça. On va prendre une dernière question, peut-être. Puis j'ai l'impression que nos micros sont solidarisés, c'est-à-dire que lorsque vous éteignez le vôtre,
non, voilà. Non, je crois que
donc
ça
on
va
prendre une dernière question et puis je crois que l'on je suis désolée.
Les topologies évoluent dans le temps, l'écliptique s'aplatit est devenu plat, les galaxies deviennent plates. Qu'en serait-il de l'univers?
Vous parlez de topologie dans un sens, c'est plutôt la forme, mais pas la topologie justement, parce que la topologie de l'univers ne peut pas changer dans le cas de la relativité générale, c'est un théorème. Mais l'univers, oui, alors, je comprends ce que vous voulez dire. Quand une galaxie tourne, on peut dire que plus ou moins par la force centrifuge, elle s'aplatit. Mais l'univers ne tourne pas lui-même. Alors, que l'univers ne tourne pas... C'est bon. Pourquoi l'univers ne tourne pas, c'est un problème assez technique. Il y a deux manières d'y répondre. La première manière, c'est de dire simplement on voit qu'il ne tourne pas. Il existe certains tests, observations qui permettent de dire qu'il ne tourne pas. Et l'autre manière est théorique, c'est-à-dire les avis sont partagés. C'est-à-dire certains disent l'univers ne pourrait pas tourner de toute façon, quoi qu'il arrive. D'autres disent il pourrait tourner, mais en fait, il ne tourne pas. Bon, c'est un long débat. Mais de toute manière... l'univers, ce qui se modifie en lui, dans sa forme générale, c'est simplement qu'il enfle, c'est-à-dire qu'il est en expansion. Et le seul changement dans la géométrie, c'est ça. C'est-à-dire, quelle que soit la forme de l'univers, cette forme reste la même, mais elle est en expansion. Et bon, je vous ai montré un petit dessin tout à l'heure. Si l'univers avait cette forme qui est très compliquée, je vous répète, on pense qu'il ne l'a pas, mais s'il avait... Même s'il avait cette forme compliquée pour l'espace, eh bien tout simplement, cette forme augmenterait en dimension avec le temps, comme ceci, dans une dilatation. Et la question est de savoir si cette expansion va continuer indéfiniment ou bien si elle va s'arrêter un jour et puis se retransformer en contraction. Vous avez entendu parler, certainement dans les médias, comme on dit, de la question de l'accélération ou de la décélération de l'expansion. Eh bien, c'est ça. C'est est-ce que l'expansion est en train... toujours de s'accélérer, auquel cas ça continuera indéfiniment, ou bien elle se décélère, elle se ralentit, et peut-être qu'elle se ralentira tellement qu'elle va s'arrêter et que l'univers va rentrer en contraction. Ben, c'est une question à laquelle on ne sait pas répondre. Il y a eu des arguments récemment disant que ça s'accélère plus tôt, mais bon, comme ça change tous les ans, on verra bien ce que ça donnera. Voilà.